Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous avons des systèmes de pensée. La Bible nous dit que, en fait, ce qu'un homme pense, comment il pense, comment son âme pense, donc ses systèmes de pensée, c'est tel qu'il est. Le reflet de ce que vous êtes à l'extérieur, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Ça faut. C'est simple comme principe. Ce sont des choses qui sont très très simples. Mais le reflet de ce que tu vis à l'extérieur, c'est ce que tu es à l'intérieur. Si tu es quelqu'un de médiocre à l'intérieur, tu seras médiocre à l'extérieur. Ta vie sera une médiocrité. C'est normal. Si tu es quelqu'un d'excellent à l'intérieur, eh bien tu vas voir que ta vie va converger vers l'excellence. Donc c'est un choix que nous devons faire. Nous allons voir maintenant la deuxième loi. La deuxième loi du leadership, je vous rappelle que nous étudions les lois du leadership, c'est la loi de l'influence. La loi de l'influence. La loi de l'influence. Notez que la vraie mesure du leadership, c'est l'influence. La vraie mesure du leadership, c'est l'influence. La vraie mesure du leadership, c'est l'influence. L'influence que vous avez sur les autres, bien sûr. Rien de plus, rien de moins. Donc on va mesurer votre leadership. La grandeur de votre leadership, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, par rapport à l'influence que vous avez sur les personnes que vous dirigez. Alors, c'est sûr que quand vous êtes dans une société privée, ben, vous êtes influent de par votre position. C'est la position. Si t'es le boss, t'es le boss. C'est toi qui dirige, c'est toi qui dis, on va à gauche, tout le monde doit aller à gauche. Ils doivent aller à gauche. Si tu dis, arrêtez-vous, tout le monde s'arrête. Reculez, tout le monde recule. Allez à droite, tout le monde va à droite. Ça marche comme ça dans les sociétés. Dans les sociétés, d'ailleurs, qui ont des mauvaises mentalités. Je crois que les businessmen doivent changer leur mentalité, les chrétiens. Ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas faire du business comme les païens. Parce que sache une chose, si tu es boss, que quand tu es au boulot, tout le monde fait, monsieur, bonjour patron, comment ça va patron? Vous désirez un café patron? Ah, et puis tu vois tout le monde qui est sur les ordinateurs, les secrétaires, tout le monde en train de bosser. Et puis, quand tu pars avec ta bagnole, quelqu'un dit, ça y est, il est parti. Ouais, maintenant c'est la fête. Et d'un seul coup, tout le monde ne fait plus rien. Ça veut dire que tu as un mauvais leadership. Les gens, simplement, tu penses avoir de l'influence parce que tu es leur boss. Tu es leur boss. Parce que tu as une position, alors les gens, tu peux leur dire ce que tu veux et ils le font. Ça, ce n'est pas un leadership chrétien. Je crois que dans les sociétés chrétiennes, il doit y avoir vraiment une transformation. Tu dois apprendre à impliquer les gens dans la vision de ta boîte. Si tu arrives à faire ça, tu seras intelligent. Pour faire ça, il y a des choses qu'il faut découvrir. Vous savez, il y a trop de patrons chrétiens qui fonctionnent comme les païens, c'est-à-dire qu'ils sont égoïstes. Ils veulent tout ramasser. Ils veulent tout ramasser et écraser leurs employés. Moi, je vois, par exemple, au Burundi, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui gagnent, mais je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 000 dollars d'entrée par jour, et ils payent, par exemple, leurs serveurs, les gens qui sont dans les restaurants, dans les hôtels, ils vont les payer 50 dollars par mois. Il y a des restaurants, vous ne dépensez pas moins de 100 à 120 dollars si vous êtes 3 ou 4, et le gars... Il voit là, il donne la facture. Le gars qui sert, il voit passer deux fois son salaire en une table. Imaginez ce que ça fait dans la tête des gens. C'est d'une stupidité, mais d'une stupidité. C'est complètement ravageant de voir des trucs comme ça. Le gars, il va vouloir piquer quelque chose. C'est une tentation pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à vivre et à chaque fois qu'il voit des clients payer 3-4 pas, il voit deux fois son salaire du mois. Et il a servi les gens qui sont restés à une table pendant une heure. voyez un peu. Et parfois, ça ne nous choque même pas. Moi, ça me choque. Excusez-moi, ça me choque. Je trouve ça lamentable. Et surtout quand c'est des patrons chrétiens qui tiennent leurs employés comme ça. Je vous tiendrai dans la pauvreté. Non, c'était intelligent. Les meilleures sociétés sont les sociétés où le patron comprend la loi de l'influence, la vraie loi de l'influence selon Dieu. C'est-à-dire qu'il fait entrer les gens à participer à une vision. Vous savez, moi, dans mon ministère, les gens qui travaillent autour de moi, je ne veux pas de fonctionnaires. La mentalité du fonctionnaire, les gens qui ont une mentalité de fonctionnaire, ils ne restent pas dans le ministère El Shaddai. Je veux qu'ils comprennent, qu'ils participent à une vision. Et plus la vision grandira, d'ailleurs, plus ils seront rémunérés. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. On augmente leur salaire à partir du moment où l'Église grandit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais seulement les gens qui sont dans la vision. Moi, la personne qui veut partir, qui arrive à 8h le matin, qui veut partir à midi top et qui revient à 14h30 ou 15h ou quoi que ce soit et qui, à 17h30 ou à 18h, s'en va, clic, clic. Je me dis, ça, ce n'est pas quelqu'un qui est dans une vision. C'est quelqu'un qui a un boulot. Mais moi, dans le ministère, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui a un boulot, j'ai besoin de quelqu'un qui est dans une vision et qui est payé parce qu'elle doit être payée, parce qu'elle sert et qu'elle travaille à plein temps et que j'exige un certain nombre de choses. Et je veux que quand je suis parti, si je pars une semaine, 10 jours, les choses continuent comme si j'étais là. Sinon, ça veut dire que mon influence n'est pas bonne. Ça veut dire que les gens travaillent quand je suis là, et ils foutent rien quand je ne suis pas là. Et ça, c'est mauvais, extrêmement mauvais. Quand vous avez une organisation, déjà, vous voyez, dans une société, on peut changer les choses, mais c'est difficile. Parce que le boss, c'est le boss, le directeur, c'est le directeur. Donc tu dois faire les choses. Mais tu dois apprendre aussi à impliquer les gens dans une vision et les intéresser. Moi, je suis pour que dans les sociétés qui sont montées avec des actionnaires, des sociétés chrétiennes, si vous avez des très bons employés, des directeurs, il faut les faire participer au capital, qu'ils puissent avoir des actions. Si vous avez des bonnes personnes, mais intéressez-les, que financièrement, ils soient très très bien. Si la société marche bien, tu auras plus d'argent à la fin de l'année. Le gars, il va vouloir bosser pour la société, non? Il ne va pas vouloir vous faire un petit dans le dos en vous piquant vos clients. Parce que ça, ça se passe aussi parmi les chrétiens. Et c'est triste. Non, implique-le. Implique-le et qu'il se sente vraiment partie de la vision de la boîte. Et le jour où il devient actionnaire, parce que tu lui donnes des actions, parce que c'est quelqu'un que tu estimes et sur lequel tu as vraiment une bonne influence, et c'est quelqu'un qui bosse bien et qui développe ta société. Moi, j'ai connu comme ça des patrons qui payaient une misère, des gens qui tenaient quasiment la société. Je connais comme ça des patrons païens. J'ai quelqu'un là, un de mes chrétiens, c'est la deuxième fois que ça se passe aussi d'une façon aussi visible. Il y a un gars un jour qui a racheté une imprimerie au Burundi, il a racheté ça de l'État. Et puis il y avait un de mes chrétiens, un bosseur. Le gars, il était capable de bosser 7 jours sur 7. Vraiment un gars, un bosseur. Et il était directeur d'un département avec un salaire minable. Et le nouveau patron, musulman, il lui dit, ah, finalement, je vais te donner la promotion. Tu vas être double directeur. Et il avait 2 positions de directeur, ce chrétien. Et il lui a augmenté son salaire de $20. Un jour, il y a un Rwandais qui l'a repéré. Il lui a dit, mais toi, tu travailles bien. Il est venu au Burundi, le Rwandais. Le Rwandais avait une imprimerie. Il a débauché ce salarié-là. Et il l'a payé, je ne sais plus, $1,500 par mois, alors que le gars ne gagnait même pas $100 par mois au Burundi. Vous n'aurez jamais des gens fidèles si vous ne les impliquez pas dans votre vision. Et si vous ne leur donnez pas, si vous ne leur montrez pas votre appréciation. Si vous n'avez pas une bonne influence sur eux. Là, j'en ai un autre. Il est marié à une Chinoise. C'est un patron d'une société qui fait de la publicité. Et il est marié avec une Chinoise. Et il y a un de mes chrétiens qui tient la boîte. Parce qu'ils sont partis tous les deux en Chine. Lui, il est ambassadeur en Chine pour le Burundi. Elle, c'est une Chinoise et elle fait du business. Lui, il est ambassadeur là-bas, et ils ont laissé mon chrétien s'occuper de la société. Et le gars, il est payé une misère, il s'occupe de toute la boîte, et il est payé quelque chose comme $150 par mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé sa propre boîte. Le patron est stupide. Il avait un gars qui lui tenait sa société, qui est honnête, qui travaille, qui lui fait tout, qui ne le vole pas, et ça j'en suis témoin, mais qui paye une misère. Et il est marié, il a 2 enfants. Le gars, il ne va pas rester dans une boîte comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'influence, ça. Ça, c'est de la position. T'es le patron, tu dois faire ce que je te dis. OK. Mais ces gens-là, vous ne les garderez pas. Les gens de qualité, vous ne les garderez jamais si vous ne comprenez pas la loi de l'influence. La loi de l'implication dans une vision. Alors bien sûr, dans une église ou dans une organisation, ce n'est pas ta position. Ce n'est pas parce que tu es le pasteur que tu auras de l'influence sur les gens. En tout cas, méfie-toi. Si tu crois ça, c'est faux. C'est absolument faux. Ce n'est pas parce que tu as un titre de pasteur, une organisation, les gens doivent être impliqués. Tu dois investir chez eux. Si tu n'investis pas, un jour, s'il y a un leader qui est meilleur que toi, ils iront voir ailleurs. Vous savez, quand des gens quittent une église et qu'ils ne sont pas dans le péché, c'est souvent parce qu'il y a un problème de leadership. Pas toujours. Pas toujours. Des fois, il y a de la rébellion, des fois, il y a parce qu'il y a des ambitions personnelles, on est d'accord. Mais il y a un certain nombre de gens qui sont de bonnes personnes qui quittent nos églises parce que nous n'avons pas su investir chez eux correctement. Quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, c'est l'influence du leader. C'est l'influence du leader qui peut faire avancer la vision et pas sa position. C'est l'influence du leader qui peut faire avancer la vision et non pas sa position. Ne pensez pas que votre position amènera de l'influence, c'est faux. Vous pourrez forcer les gens à faire des choses, c'est vrai, mais ils ne seront pas. C'est pas pour ça qu'ils sont dans le cœur de votre vision. Donc notez que le cœur même de l'influence, est d'amener les gens à participer à notre vision. Le cœur même de l'influence, c'est d'amener les gens à participer à notre vision. Je vais vous dire une chose, des volontaires dans une organisation, on ne peut pas les forcer. On ne peut pas forcer des volontaires à servir. S'ils servent, c'est parce que vous avez suscité un désir de servir sous votre leadership. Vous avez suscité le désir, mais vous avez aussi nourri ce désir de servir. En tout cas, les gens qui sont volontaires et qui vous sont loyaux et fidèles, c'est parce que vous avez suscité en eux un désir de vous suivre et de suivre votre vision. Et vous avez aussi nourri cela, vous avez entretenu cela. Et après, ces personnes qui vous suivent et qui sont autour de vous, ce sont des gens qui ont tellement été motivés et nourris dans votre vision qu'ils vous sont loyaux et dévoués. Et ce n'est pas facile d'avoir des gens comme ça autour de nous. Parce que ça demande un travail de la part du leader, le travail de l'influence du leader. Nous allons voir un personnage biblique qui s'appelle Josué. Nombre chapitre 13, on va résumer parce qu'on n'a pas le temps de lire tous ces passages. Vous pourrez lire Nombre 13 et 14. Nombre chapitre 13 et chapitre 14. C'est une histoire que nous connaissons tous bien, je vais la résumer. C'est lorsque Moïse, sur l'ordre de Dieu, va envoyer 12 espions pour explorer le pays de Canaan. On connaît tous cette histoire, je pense. On va juste lire quelques morceaux ici. Chapitre 13, verset 1, il est dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera quoi ? Oh, un prince, c'est-à-dire un leader. On n'avait pas pris n'importe qui de chaque tribu. On avait pris un leader de chaque tribu. » Juste une petite remarque en passant. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, et tous ces hommes étaient des chefs, des leaders des Israélites. Donc, Moïse les envoie, hein, verset 17 à verset 20, il leur dit, voilà, vous allez explorer le pays, vous allez dire s'il est bon, s'il est mauvais, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., etc., etc. Les espions partent, on connaît tous cette histoire, sur ce côté-là en tout cas, et ils arrivent et nous savons que 10 espions vont faire un rapport lamentable. Ils vont dire, oui, c'est vrai, c'est un beau pays, mais il y a des géants, mais, le langage du doute, mais, etc., etc. Les deux autres, Josué et Caleb, font un très bon rapport. Ils disent, c'est vrai, il y a des obstacles, il y a des défis, mais si le Seigneur est avec nous, il n'y aura pas de souci, on va conquérir. Et les 10 espions vont avoir une mauvaise influence. Le leadership, c'est de l'influence. Ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Hitler avait une influence épouvantable sur la jeunesse allemande. Il en a fait une génération de génocidaires, de meurtriers. Alors que quand Hitler a pris le pouvoir, l'Allemagne était dans une récession économique très importante. Hitler a organisé l'Allemagne à l'époque. Hitler a fait prospérer l'Allemagne. Par contre, il a eu une influence, il a utilisé son influence pour tuer toute une génération. Et amener son pays après dans un chaos épouvantable par des ambitions personnelles. Mais Hitler était un homme ultra influent. Je ne sais pas si vous avez écouté les discours d'Hitler quand il est passé, vous savez, dans les vieux films, la façon dont il galvanisait les foules. Il parlait, les gens étaient là, comme si tout ce qu'il disait, c'était, comme on dit, mal à propos, parole d'évangile. C'est-à-dire, il disait n'importe quoi, tout le monde disait, oui, on est d'accord avec ça, et il partait comme un seul homme. Et il avait une influence épouvantable. Les 10 espions ont eu une influence absolument épouvantable. Quand ils ont commencé à parler au peuple, on va lire à partir du verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays où coule le lait et le miel. Mais, et en voici les fruits. Mais le peuple, verset 28, qui habite ce pays est très puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons même vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants, des gens très, très, très hauts, très grands. Les Amalécites habitent le pays du Negev, etc. Les Hittites, les Jébousiens, etc. Les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, sur les rives du Jourdain. Caleb, regardez verset 30, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter pour combattre l'incrédulité, le doute ici. Ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là la race, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. » Regardez bien verset 14. « L'influence mauvaise des 10 espions. La communauté, toute la communauté éleva la voix et poussa des cris contre, et le peuple pleura cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit « Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte ? Ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée ?» La mentalité du désert, la mentalité du désert, terrible. Nos femmes, nos petits-enfants deviennent une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte, hein, quelle grosse farce. Et ils dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Comment ils auraient traversé la mer? Moïse et Aaron tombèrent face contre terre. Ils étaient minables, ces gens. Ils étaient minables. Ils voyaient des miracles tous les jours. Mais ils avaient des réflexions de gens vraiment minables. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephthuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent. Regardez bien ici, Josué et Caleb parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, sous-entendu comme il nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils avaient vraiment le langage de la foi et la vision de la foi. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Toute la communauté parlait de les lapider. Toute la communauté. Dieu va intervenir après. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'influence des uns et des autres. On voit que les 10 ont une influence sur le peuple, une influence négative. Josué et Caleb vont essayer de faire taire le peuple. Est-ce qu'ils vont y arriver? Non, du tout. Ils n'arrivent pas à calmer le peuple. Le peuple va se fâcher contre eux. Ils voulaient les lapider après leur intervention. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune influence. Les 10 avaient beaucoup plus d'influence sur le peuple parce qu'ils ont mis le doute et l'incrédulité dans tout le peuple. Et les 2 qui avaient la foi n'ont pas réussi, alors qu'ils avaient la foi, alors qu'ils avaient vraiment les bonnes motivations. Ils avaient un bon cœur. Et avoir un bon cœur, avoir les bonnes motivations, avoir la foi, ne t'amènera pas forcément tout de suite l'influence. C'était le cas de Josué et Caleb. C'était des bonnes personnes qui voulaient obéir à Dieu, qui marchaient dans la foi, mais il leur manquait quoi? L'influence. L'influence. Quand Josué, 40 ans plus tard, va prendre le leadership du peuple après Moïse, début du livre de Josué. Josué va réussir parce que pendant ses 40 ans, il va gagner en influence. Il va être formé auprès de Moïse. Et là, Il va dire aux Israélites, nous allons prendre le pays de Canaan. Dieu me l'a dit, on y va. Ils ont foncé, ils ont conquis tout le pays de Canaan. Quelle est la différence de Josué au moment où il est envoyé avec les espions, dans les 12, et au moment où Dieu le place dans la succession de Moïse? Entre-temps, il y a eu 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Son influence avait immensément grandi. Le leadership, c'est de l'influence. Vous pouvez avoir un bon cœur, vous pouvez avoir une belle vision, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui disent, le Seigneur m'a parlé, venez, suivez-moi. Et ils sont suivis par presque personne. Moi, quand j'ai commencé le ministère, c'était une catastrophe. On avait très peu de gens. Notre église a grandi très doucement. On s'attendait d'un seul coup. Ça ne s'est jamais produit comme ça. Ça s'est produit étape après étape après étape après étape. L'Institut biblique, c'est pareil. Au début, à l'Institut biblique, j'avais 15 personnes qui étaient là. Et si je vous disais les 15 personnes que j'avais, c'était terrible. Aujourd'hui, nous avons plus entre 250 et 300 étudiants qui viennent tous les ans. On a gagné en influence, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça prend du temps. Pourtant, on enseigne les cours, en grande partie les cours qu'on enseignait au début. On fait la même chose avec le même cœur, avec la même foi. Mais la différence, c'est l'influence. L'influence. On va parler justement de cette loi de l'influence. Ce que je veux d'abord, c'est que vous puissiez comprendre. La vraie nature du leadership, donc, c'est l'influence. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se poser certaines questions et faire certaines réflexions à propos de l'influence. Numéro un, quand on voit que les gens ne nous suivent pas, il faut qu'on se pose des questions. Quand on voit qu'on n'est pas suivi, il faut qu'on réfléchisse sur notre influence. C'est là où tu dois se poser la question. Pourquoi est-ce que les gens ne me suivent pas? Ça fait 10 ans que je travaille dur et il y a très peu de résultats. Pourquoi? Pose-toi la question. Est-ce que c'est de l'influence qui te manque? Tu n'as pas compris la loi de l'influence? Ou est-ce que tu n'es pas à ta place? C'est-à-dire que tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur te dit de faire. Ça, tu dois te poser de telles questions. Ensuite, tu dois réaliser, deuxième chose, réalise que la position ne fait pas tout. Donc, ce sont les choses que nous devons comprendre sur l'influence. La position ne fait pas tout. Josué était aussi un prince, Caleb aussi, mais les deux n'ont pas réussi à contrebalancer les 10. Ta position ne fait pas tout. Loin de là. Tant que tu n'as pas gagné en influence, ça ne marche pas. Ensuite, numéro 3, tu dois réaliser que ton influence peut être positive ou négative. Tu dois réaliser que ton influence peut être positive ou négative. S'il vous plaît, éteignez vos téléphones portables. Merci. Ton influence peut être positive ou négative. Ensuite, quatrième chose, tu dois réaliser que ton agenda doit être sans arrière-pensée. Et là aussi, tu dois faire très attention. Pourquoi est-ce que tu veux gagner en influence? Pose-toi la question. Est-ce que parce que tu as des désirs d'usurper l'autorité de ton pasteur et d'aller faire une église juste à partir de son église? Ça, c'est terrible. Ces gens-là, je n'arrive pas à les comprendre. Ça, franchement, ça me fait de la peine quand je vois un leader potentiel partir en pleine rébellion et piquer 100, 200, 300 personnes, 500 personnes d'un pasteur parce qu'il s'est rebellé et qu'il a créé une sorte d'influence autour de lui. Vous voyez, les 10 avaient un agenda caché. Quel était l'agenda caché des 10? C'était finalement de se débarrasser de Moïse. Parce qu'ils ont dit, nommons-nous un chef et repartons. C'était leur but. Maintenant, on a divisé le peuple. On va se nommer un chef et on va repartir en Égypte. C'était une stupidité épouvantable. Et en fait, ils voulaient remettre en question qui? Le leader que Dieu avait placé. Heureusement que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Parce qu'à sa place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais lui était patient. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vous font des coups. Là, vous avez envie de réagir. Vous voyez, Moïse n'a pas réagi, il a répondu à la situation encore. C'était vraiment un homme exceptionnel. Moïse avait un caractère exceptionnel. Les 40 ans de désert ont transformé cet homme. Vous savez, parfois, il faut du temps pour que nous soyons transformés. Et ça ne se passe pas non plus par hasard. Alors, numéro 5, oui, excusez-moi, dans l'agenda sans arrière-pensée, un vrai leader regarde toujours l'intérêt du peuple. Un vrai leader qui comprend l'influence, la vraie, la bonne influence divine, regarde toujours l'intérêt du peuple. Vous savez, quand il y a des divisions dans les églises, c'est toujours le gars qui divise, il a toujours son intérêt personnel. Les gens qui font des histoires dans les églises, ils ont toujours un but qui est pourri. Quand on n'est pas content d'un leader, on part par la petite porte sans histoire. Ça, c'est biblique. Si ton leader ne te plaît pas, si tu as un problème sérieux avec lui et que tu estimes avoir raison, tu pars par la petite porte. Mais tu ne vas pas essayer de casser l'église pour retirer une partie. Les divisions viennent avec ce genre de personnes. Et ils utilisent une certaine influence qu'ils ont fait sur le dos du pasteur. Ouh, ça va parler à quelqu'un ce matin, je ne sais pas pourquoi j'aborde ce sujet, mais certainement que ça va parler à quelqu'un. Les gens utilisent ce qu'ils ont fait dans le dos du pasteur, donc une certaine influence qu'ils ont, pour faire du mal. Mais ils ne s'occupent jamais du peuple de Dieu. Dans les histoires de division d'église, j'ai toujours vu les gens rebelles ne jamais considérer les intérêts du peuple. Et j'ai toujours vu des pasteurs souffrir, des fois de calomnies ou de choses terribles, de coups d'État, entre guillemets, qu'on a voulu leur faire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'intérêt du peuple et ils ne voulaient pas que le peuple soit dispersé à cause de problèmes qu'ils avaient eus. Ne profitez jamais de la faiblesse d'un leader pour avoir un agenda caché. Ne faites jamais ça. Dieu ne vous bénira jamais dans ce genre d'attitude. Si tu vois ton leader qui a une faiblesse, ne profite jamais de cette faiblesse pour lui donner un coup de couteau dans le dos et utiliser une certaine influence que tu as dans l'église. Jamais faire ça. Si tu estimes que tu ne peux plus suivre ce leader, il n'y a pas de souci. Tu lui dis merci pour ce que tu as fait pour moi, mais je ne me sens plus dans la famille. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous dis, ça c'est biblique. Mais ne jouez jamais d'une influence que vous avez gagnée dans l'église, parce qu'on vous a donné un jour une position pour aller donner un coup de couteau dans le dos de votre leader. Parce qu'il est dans un moment de faiblesse. Ne faites jamais ça. J'ai vu des gens faire ça. Et croyez-moi, je n'ai jamais vu la bénédiction de Dieu sur ces gens-là. Ça a été toujours une catastrophe pour leur vie. Ils ont ruiné leur destinée à cause de ce genre de truc. Parce qu'ils ne se sont jamais repentis. Donc numéro 5, cinquième remarque sur l'influence, réalisez que l'influence, bonne ou mauvaise, vient la responsabilité de nos actions. Réalisez qu'avec l'influence, bonne ou mauvaise, vient la responsabilité de nos actions. Ça c'est important. Les 10 n'ont pas réalisé qu'avec leur rébellion, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Leur influence négative, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont puni le peuple pour 40 ans. Et il y a des conséquences. Mon frère, ma sœur, si tu es dans le leadership, si tu as une mauvaise influence, il y a des conséquences et tu dois assumer tes responsabilités. Parce que là aussi, j'ai vu beaucoup de chrétiens se décharger de leurs responsabilités. Faire des gaffes, ça arrive à tout le monde. Assumer ces gaffes, il y en a très peu qui veulent le faire. Et ça, ça montre souvent des traits de caractère d'irresponsabilité. Nous avons beaucoup de gens irresponsables dans le corps de Christ. On va prier, le Seigneur va couvrir tout ça, ça c'est du baratin ça. Non, tu fais une gaffe, t'es leader, tu dois assumer les conséquences de tes gaffes. Si tu dois demander pardon, tu demandes pardon. Si tu as des sanctions, tu acceptes des sanctions. C'est normal, c'est biblique. Et d'ailleurs, ça fera du bien à ton caractère. Si tu ne le fais pas, ça prouve que tu as un caractère de rebelle. Ça prouve que tu es quelqu'un qui ne comprend pas le royaume de Dieu et le caractère de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Donc, il y a des conséquences à nos décisions. Notre influence par rapport à nos décisions. Bonne ou mauvaise. Alors, notez que quand un leader a peu d'influence, peu sera accompli. Donc moins il y a d'influence, moins on va accomplir des choses. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Plus vous gagnez en influence, plus vous pourrez accomplir. Et Josué et Caleb n'avaient aucune influence à l'époque. Et ils ont été à contre-courant. Le courant était beaucoup plus fort et c'est le courant négatif qui les a embarqués dans leur influence, malheureusement. Et leur influence a été complètement noyée, absolument noyée. Alors, des fois, vous allez vous retrouver à ne pas avoir d'influence pour différentes raisons. Par exemple, ici, on voit ces bons leaders, hein, ces deux personnages, Josué et Caleb. Mais ils ont, comme ils n'ont pas d'influence, ils ont à faire face à un peuple qui avait certaines mentalités. Le peuple d'Israël avait les mentalités suivantes. D'abord, c'était des gens qui vivaient dans leur passé. Et tu ne peux pas avoir de l'influence avec des gens qui vivent dans leur passé. C'est terrible. Il y a des gens qui sont tout le temps dans leur passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, tu dois le laisser partir. Quand les gens vivent tout le temps dans leur passé, se rappelant de leur passé, ils vivent souvent dans la condamnation. Ils vivent dans leurs erreurs. Ils vivent dans ce qui s'est passé avant. Les Israélites, eux, ils avaient encore l'Égypte dans la tête. Ils n'avaient pas le pays de Canaan dans la tête. Ils vivaient constamment avec, oui, en Égypte. À chaque fois qu'il y avait une histoire, ils disaient, ah, en Égypte, on avait de la viande. Ah, on avait de quoi boire. On avait même des tombes pour nous enterrer. Oui, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils étaient esclaves. Ce qu'ils oublient, c'est qu'ils étaient en train de crever sous le joug gigantesque du travail de Pharaon, qui n'arrêtait pas de mettre des pressions sur eux. Numéro 2, ils cherchaient un leader pour les ramener. Ça, quand vous avez un peuple qui cherche, des gens qui commencent un peu à vous suivre ou que vous voulez influencer et qui cherchent un autre leader, vous aurez du mal. Ils cherchaient un leader pour les ramener. Numéro 3, ils manquaient de foi. Et quand il n'y a pas de foi, ça prouve qu'il n'y a pas de vision. Et quand il n'y a pas de vision, la Bible nous dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple fait n'importe quoi. Il tourne en rond, littéralement. Numéro 4, ils avaient peur du lendemain. Ils avaient peur du lendemain. Alors, je vais vous dire quelque chose ici. C'est la taille du leader. Notez que c'est la taille du leader. Ce n'est pas un numéro 5, c'est un peu une remarque. C'est la taille du leader et non pas du défi si les gens vont conquérir de nouveaux territoires. Méditez sur ces choses. C'est la taille du leader et non pas du défi qui détermine si les gens vont conquérir de nouveaux territoires. Ici, ces deux leaders, Josué et Caleb, étaient de petite taille, entre guillemets. Vous comprenez ce que ça veut dire? On ne parle pas des centimètres ici. On parle de la taille de leur leadership et de leur influence. Ils n'étaient pas influents et ils n'étaient pas des leaders reconnus. Et devant les défis, ils n'ont pas amené le peuple d'Israël à croire que c'était possible de relever le défi. Par contre, 40 ans plus tard, Josué avait gagné sérieusement en influence. Sérieusement, c'était quelqu'un qui était devenu un grand leader. Et là, il va relever les défis sans aucun problème. Donc, ce n'est pas la taille du défi qui est important, c'est la taille du leader. Si le leader a peu d'influence, il y aura peu qui sera accompli et les grands défis, vous ne pourrez pas les relever. Avec une grande influence, vous pourrez relever de très grands défis. Alors, il y a des choses à pratiquer. Nous devons donc grandir. Dans l'influence, il va falloir que vous compreniez qu'on peut grandir. Il y a une croissance dans l'influence. Cette croissance ne se passera pas du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas influent aujourd'hui, mais que vous avez une grande vision, il va falloir que vous passiez par ces étapes de croissance de l'influence. Parce que souvent, en tout cas moi je l'ai cru pendant des années, je disais, si je suis au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose, c'est une clé, hein, c'est une des clés mais pas la seule. Je pensais que c'était la seule. Être au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. C'est-à-dire, tu es au bon moment, Dieu t'a dit c'est le moment de faire ça, au bon endroit, c'est-à-dire géographiquement, à faire la bonne chose. Tu fais exactement ce que le Seigneur te dit de faire. Moi, je pensais que c'était la seule clé pour pouvoir réussir dans le leadership. Et je me suis trompé. C'est une clé importante. Parce que si tu n'es pas au bon moment, si tu n'es pas au bon endroit, si tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur te demande, de toute façon, tu ne pourras pas voir la main de Dieu. Mais je pensais que c'était la seule clé. Qu'à partir du moment où j'appliquais cette clé, être au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose, obligatoirement, ça allait marcher. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est quand même un peu plus complexe que ça. C'est bien d'avoir un bon cœur, mais il va falloir comprendre cette loi de l'influence. Que l'influence doit grandir dans notre leadership. Alors, qu'est-ce qu'on doit pratiquer pour faire grandir cette influence? Il y a plusieurs choses qu'on doit faire pour grandir dans cette influence. Alors que tu montes en influence, alors que tu n'es pas encore très influent, il va falloir que tu mettes l'accent sur ces choses-là. Numéro 1, tu dois cultiver ta relation avec Dieu, surtout dans les moments difficiles. Donc apprendre à dépendre de Dieu. Tu cultives ta relation avec Dieu. Tu es là, tu es au bon endroit, au bon moment à faire la bonne chose. C'est une clé, mais tu as peu d'influence encore. Comment est-ce que tu vas gagner en influence? D'abord, tu dois apprendre à cultiver ta relation avec Dieu, surtout dans les moments difficiles. Parce que si tu lâches dans les moments difficiles, chaque leader a de grands défis et des défis d'influence. Il dit, j'aimerais faire ça, mais on ne pourra pas faire ça, on n'est pas suffisamment. Ou on n'a pas suffisamment de ressources humaines, financières, etc., etc., etc. Donc tu cultives ta relation avec Dieu dans ces moments difficiles. Tu apprends à un grand secret que je vais t'apprendre ici. Tu apprends à faire des pierres d'achoppement, c'est-à-dire les pierres qui veulent te faire chuter, tu apprends à faire des marchepieds pour aller plus haut. Ça, c'est difficile au début. Parce que souvent, quand il y a une pierre devant nous, le diable veut qu'on chute avec ça. Tu apprends devant ces pierres-là à faire quoi? À mettre ton pied dessus et à monter plus haut. Donc dans ta relation avec Dieu, tu dépends du Seigneur de plus en plus et tu apprends à changer ces pierres d'achoppement en pierres qui vont te permettre de gravir des échelons. Ça, c'est important. C'est une mentalité, ça c'est encore répondre aux situations, ne pas réagir. Quand tu réagis aux situations, tu dis « Ah, encore quelque chose contre moi, encore une attaque de Satan, encore des gens qui ont fait des plans contre moi. » Non, tu dis pas ça. Tu dis « Ok, vous voulez faire ça, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, dans cette situation-là, vous voulez m'humilier, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va m'élever, mais je vais me mettre en position. Pour que cette pierre ne soit pas une pierre où je vais tomber, mais une pierre avec laquelle je vais monter beaucoup plus haut. Ça, c'est une mentalité, frères et sœurs. Encore, on parle de mentalité. Tant que tu ne veux pas changer ta mentalité, tu ne pourras pas avancer. Numéro 2, l'obéissance, sans réserve. Ça aussi, c'est très important. Dans les moments où tu es peu influent, apprends à obéir constamment. Ça va être une école, et plus tu vas être influent, plus tu vas apprendre à obéir au Seigneur. Très, très important. L'obéissance. Jésus dit... Celui qui est fidèle dans les choses, on lui confiera de plus grandes. La fidélité dans les moments où tu es encore petit dans ton leadership, c'est quelque chose qui est très important. Quelque chose que ton caractère, dans lequel ton caractère va être forgé en disant « Seigneur, moi, je veux apprendre à t'obéir. Ça me fait mal, Seigneur. On m'a demandé de faire ça, mais ça fait mal, mais je crois que tu as placé ce leader au-dessus de moi, etc. » Ou « Je crois, Seigneur, que tu me demandes ça. C'est vrai que c'est difficile pour moi, mais je vais le faire. » Et Dieu va te donner de la promotion. Parce qu'il voit chez toi... un cœur disponible, c'est dans Luc chapitre 16, verset 10. Hein, celui qui est fidèle dans les... Luc 16, 10, regardez pas, je vous donne juste la référence. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Et tu vas être testé dans cette obéissance. Sur le chemin de ton leadership, tu vas être testé. Dieu va tester ton obéissance. Ce n'est pas la seule chose qu'il va tester, mais ton obéissance va être testée. Est-ce que tu veux lui obéir? Il y a de la puissance dans l'obéissance, ça je vous le garantis. Les gens qui obéissent à Dieu, il y a de la puissance sur eux. Les gens qui sont tout le temps en train de dire « oui, mais, non, mais, tu vois, Seigneur, blablabla, etc. » se donnent des excuses, ce sont des gens qui vivent sans puissance. Il n'y a pas de choses, il n'y a rien. Ensuite, la foi. Numéro 3, la foi. La foi, c'est quelque chose de super important parce que ça va te permettre de relever des défis. Et ta foi va grandir. C'est une école, la foi. Ce n'est pas quelque chose que tu saisis comme ça du jour au lendemain. Il y a des enseignements sur la foi, il y a des principes de la foi, mais c'est une école. Une école qui va demander énormément de temps. Tu vas grandir, faire des expériences. Les meilleures expériences que tu feras, c'est les moments où tu seras dans le feu des circonstances, où tout semblera dire non par rapport à ce que le Seigneur t'a dit. Et quand Dieu va te sortir des trous les pires, là, ça va être génial. Tu auras des expériences inoubliables. Moi, personnellement, j'ai des expériences inoubliables qui m'ont fait grandir dans le Seigneur. Dans des moments où tout semblait être une catastrophe. J'étais en plein milieu d'une guerre civile. On n'avait quasiment aucun soutien financier. On était dans des galères épouvantables. Les gens ne voulaient pas croire qu'on était envoyé par le Seigneur. Il y avait des choses qu'on enseignait où les gens disaient « Mais non, on ne veut pas des enseignements, on veut être délivrés, on veut que les démons soient chassés, on veut que les malédictions soient parties, etc. 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 » Et les gens, vraiment, on était là deux fois, notre église, il y avait une lettre du ministère de l'Intérieur qui disait que nous devons fermer l'église El Shaddai. Deux fois, j'ai les copies. Deux fois. Dans les pires moments comme ça, j'ai vu la main de Dieu, mais d'une façon... inimaginable. Voir comment Dieu a arrêté sur le bureau du directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur une lettre qui était prête à être signée et à être envoyée pour fermer notre église. Et il y a eu un chrétien d'une autre église qui un jour Moi, je ne lui avais pas parlé de cette histoire, je ne savais pas qu'il connaissait le directeur de cabinet, qui a débarqué dans le bureau de ce directeur de cabinet. Il était assis en face et il a regardé la lettre à l'envers, très discret, et il a vu fermeture d'une secte à l'hôtel Source du Nil, parce qu'on nous traitait de secte à l'époque. Et c'était l'ordonnance de fermeture de l'église El Shaddai de Bujumbura. À l'époque, nous avions 150 personnes à l'église. Partout dans la ville, les gens disaient, n'allez pas à l'église El Shaddai, parce que l'église El Shaddai va fermer. Imaginez-vous. Parce que les bruits du ministère de l'Intérieur s'étaient répandus un peu partout. Parce que des gens voulaient la peau de cette église. Mais je n'étais pas venu par moi-même. J'étais venu parce que le Seigneur nous a envoyés là-bas. Et nous a dit, par ordonnance divine, de faire ça. Mais je peux vous dire, il y a des expériences comme ça que vous n'oubliez jamais dans votre vie. Pourquoi ? Pourtant, vous êtes là, vous êtes au milieu de toute l'adversité, inimaginable. Mais vous savez ce que le Seigneur vous a dit. Et vous vous accrochez à ce que le Seigneur vous a dit. Et quand vous faites cela, aujourd'hui, on en rigole parce que nous avons le premier vice-président qui est dans l'église. Et un jour, je discutais avec lui et on rigolait. Et il disait, oui, pasteur, à cette époque-là, on avait, à l'époque, il était ministre de la Justice. À cette époque-là, on avait peur des nouvelles églises. Donc, on envoyait des espions partout. Et on cherchait à bloquer les églises. Pendant des années au Burundi, vous ne pouviez pas avoir votre agrément, parce qu'on faisait exprès de ne pas donner votre agrément. On mettait des piles de dossiers de demande d'agrément en vous disant « revenez demain », demain qui n'arrivait jamais. La foi, l'engagement, ça c'est important. Tu veux gagner en influence, engage-toi, sois quelqu'un de conviction. Les gens ont besoin de leaders de conviction. Ils n'ont pas besoin de leaders qui vont courir 100 mètres en disant « Voilà, je vais faire ça, Dieu m'a dit, blablabla. » Tout le monde court avec eux et quand les premières difficultés arrivent, ils fuient. Il y en a beaucoup de ces gens-là. Ces gens-là ne sont jamais influents. Ils ne perceront jamais dans l'influence. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui n'ont aucune persévérance, aucun engagement. Ce ne sont pas des gens de conviction. Ce sont des gens qui marchent avec la chair. Et même si parfois Dieu leur parle, ces gens-là, ils amènent les autres dans des voies de garage, dans des fossés, dans des endroits où il y a des voies sans issue, malheureusement. Nous avons besoin de leaders qui sont prêts à s'engager jusqu'au bout, non pas à courir un 100 mètres. Parce que quand tu remplis une vision, tu ne cours pas un 100 mètres, tu cours un marathon. Et dans ce marathon, vous savez, j'aime bien voir l'athlétisme, parce que ce que j'aime voir dans les courses de fond, une course de fond ne se gère pas comme un sprint. Un sprint, les gars sont là, prêts, partez. Ils sont à fond de la, du dixième, du centième de seconde où ils ont entendu le jusqu'au moment où ils vont franchir la ligne d'arrivée. Ils courent comme des fous jusqu'au bout parce qu'ils savent que s'ils font un pas de travers, ils perdent la course. Les marathoniens, ce sont des stratèges. Ils savent qu'ils vont laisser partir les perdants devant pour faire la course. Et au moment donné, nos Kenyans et nos Éthiopiens, avec leurs grandes pattes, vont commencer à... Et ils vont doubler tous ces gens-là qui arriveront 7, 8e, 9e, 10e, qui ont fait la tête de course. Pourquoi ? Parce qu'il y a une stratégie. Quand tu es un marathonien, tu ne gères pas ta course comme un sprint. Et tu es engagé à fond, tu vas être obligé de résister. S'il y a quelqu'un qui veut te doubler au mauvais moment, tu ne le laisseras jamais doubler. Mais tu gagneras la course parce que dans ta tête, tu es déjà parti en tant que vainqueur. Et pour ça, il nous faut des gens de conviction. Les gens qui font des choses qui sont populaires n'avanceront à rien. Laissez-moi encore 5 minutes en plus, s'il vous plaît, pour que je finisse ce temps ici. Et les gens qui ne sont pas de conviction, ils vont nulle part. Ils créent beaucoup de désordre, beaucoup de désordre. Nous avons besoin de gens qui sont absolument à 100% engagés. Nous n'avons pas besoin de gens qui font des choses populaires aussi. Parfois, malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu, parce que les autres font ça, alors je vais faire ça. Ne fais pas ce que les autres font, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Moi, j'ai prêché la prospérité alors que j'avais des chaussures trouées et que j'avais pas de voiture, que j'étais au Burundi avec 6 gosses en pleine guerre civile. Et les Burundais me regardaient en me disant « Mais mon vieux, tu sais pas où t'es ici. On est en pleine guerre civile, tout le monde se fait foutre à la porte des entreprises. On ferme les entreprises. Les gens fuient le pays parce que nous sommes en guerre. » Et ils disaient « Mais d'habitude, les missionnaires viennent avec beaucoup d'argent. » Et moi, je disais « J'ai pas d'argent à vous donner. Par contre, j'ai un message à donner. » Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes l'église la plus prospère du Burundi. Et les gens viennent savoir en disant « Mais comment vous avez réussi à acheter un bâtiment à 700 000 dollars ? Je lui ai dit, mais avec le même message qu'on donnait il y a 15 ans et que personne ne voulait écouter, sauf certaines personnes qui ont commencé à écouter un message. Et aujourd'hui, les gens nous regardent parce que nous sommes la seule église indépendante qui a quasiment fini son bâtiment. Nous sommes en phase de finition à l'intérieur. On a un truc qui vaut plus d'un million, un million et demi de dollars maintenant et ça vaudra encore beaucoup plus d'ici quelques temps. Et tout ça avec des finances locales. On n'a rien pris à l'extérieur. Dans le pays, un des pays, je crois que c'était le cinquième pays le plus pauvre du monde. Vous savez, les gens ne veulent pas vous écouter au début. Si vous faites les choses populaires, à l'époque, quand on a commencé l'église, les choses populaires étaient de faire des réunions de délivrance. Délivrer tous les chrétiens. Grosse farce. Parler des malédictions. T'as la malédiction du célibat, t'as la malédiction du chômage, t'as la malédiction de ceci, t'as la malédiction du chapeau, t'as la malédiction du téléphone. Débilité. Sauf que ces gens-là, aujourd'hui, on n'entend plus parler. Quand tu fais des choses qui sont populaires pour plaire aux autres, tu as tort. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Au début, tu auras des difficultés parce que l'ennemi sait que là, tu es en train de conquérir un nouveau territoire. Et ça, il n'aime pas ça. Mais quand tu fais ce que le Seigneur te demande et que tu marches avec tes convictions, Dieu vraiment transforme les situations. Dieu transforme les situations. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Et parfois, ce n'est pas facile. Parce que faire ce qui est populaire, c'est plus facile pour tout le monde. Faire comme les autres. Non, fais ce que le Seigneur te demande. Cinquième chose, un partenariat avec Dieu et les autres. Un partenariat avec Dieu et les autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui est tripartite. Dieu, toi, en tant que leader, et les gens que tu diriges. Être prêt à faire ce qu'ils te demandent et à implanter ça chez les gens qui te suivent. Bien sûr, Josué, il a eu la grâce d'avoir Moïse, qui l'a formé dans son influence. Ça l'a beaucoup aidé. Et parfois, Dieu vous donnera, nous verrons cette loi de la montée en puissance, quand un leader voit un leader potentiel et le prépare, et lui donne aussi ses relations. Vous savez qu'il y a beaucoup de leaders qui cachent leurs relations aux autres. Ils ont peur de dire, tiens, il y a telle personne que tu pourrais inviter dans ton église, ça va être une grande bénédiction dans ton église. Il y a beaucoup de leaders qui sont comme ça, c'est de la stupidité. Ou même des businessmen qui cachent certains petits secrets à d'autres businessmen chrétiens. Qu'est-ce que tu en as à faire? Tu crois que tu es exclusif? Mais tu n'as rien compris. Si tu aides quelqu'un à monter, il y a un jour cette personne qui dira, je suis devenu ce que je suis devenu par la grâce de Dieu et aussi parce qu'il y a quelqu'un un jour qui est venu, qui a cru en moi, qui a cru qu'il y avait quelque chose que Dieu avait mis en moi. Et il m'a aidé à sortir ce trésor que le Seigneur avait mis pour que nous puissions l'exploiter et que je puisse devenir le leader que je suis devenu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas le one-man show, moi, moi et moi, où tu m'intéresses à partir du moment où je suis au-dessus de toi. Parce qu'il y a des leaders comme ça que je connais, c'est triste. Ils cherchent un peu à droite, à gauche, certains autres leaders potentiels, mais leur objectif, c'est de dominer sur ces leaders-là. Et ça, c'est pervertir le leadership divin. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui sont chrétiens de nouveau, et malheureusement, un certain nombre de serviteurs de Dieu, je dois le dire avec tristesse, qui utilisent leur position de leader et d'influence de la mauvaise manière. Nous sommes là pour investir chez les autres. Notre vraie récompense n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux, frères et sœurs. Mais notre vraie récompense sera quand Dieu va mettre le feu à nos œuvres et ce qui restera. Et c'est là où Dieu te dira vraiment, ce que tu as fait là, peut-être que ce n'était pas quelque chose d'ouvert où tout le monde t'applaudissait, mais c'est quelque chose que moi j'ai vu avec mes yeux, que tu as investi dans telle personne. Et c'est grâce à cela que telle ou autre personne a pu me découvrir ou a pu devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est l'influence, l'influence. Donc Josué, lui, au départ, c'était intéressant. Il a beaucoup changé, Josué. Si vous étudiez bien la vie de Josué, eh bien, au début, dans Josué 11, 28, vous verrez que c'était quelqu'un qui était jaloux. Il est jaloux. Quand il entend d'autres personnes prophétiser, il va le rapporter à Moïse. C'était un cafteur. Oui, Moïse, tu vois, les autres prophétisent. Il faut les empêcher, hein. Et Moïse dit, mais non, même si toute l'assemblée d'Israël prophétise, je serai content. Moïse avait un caractère très différent de Josué. Là, Josué, c'était un petit coq, excusez-moi de l'expression. Mais il était là, il voulait faire à côté du leader, vous savez. Et dire, tu vois Moïse, là, il y a des gens qui prophétisent, il faut qu'on les empêche. Hein. Et Moïse dit, mais non, moi, le succès des autres, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Si toute l'assemblée d'Israël peut être sensible à l'Esprit de Dieu, mais je serais très content, je serais heureux. Je n'ai pas de concurrent. Quand tu as des concurrents dans le leadership, c'est que tu as un problème. Nous verrons la compétition. C'est vraiment un côté extrêmement mauvais. Donc, la première chose, c'est qu'il est jaloux. Mais il va commencer à changer. Nombre 14, il échoue devant son influence. Nombre 14, il échoue devant son influence. Mais à la fin, au bout de 40 ans, quand il succède à Moïse, c'est un homme extrêmement influent. Parce que Moïse, son mentor, l'a formé pour qu'il devienne un vrai leader, selon le cœur de Dieu. Parce que Moïse est un leader selon le cœur de Dieu. Et il a formé un leader. Il a fait un successeur qui était aussi quelqu'un qui était selon le Seigneur. Alors, quelques petites remarques pour clôturer. Merci de votre patience. Mais j'aime trop ça. Même si vous partez, je continuerai jusqu'à la fin. Rien que pour moi-même. Alors d'abord, vous connaissez cette phrase intéressante de Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alors là aussi, dans l'influence, un leader doit faire attention à sa famille. Il faut faire attention. Parce que nous, dans le leadership, on a souvent ce problème-là. Nous sommes très occupés à notre vision. Et quand on néglige la famille, c'est une catastrophe. Il faut faire attention à cela. Maintenant, la famille ne doit pas venir avant et constamment nous tirer vers le bas. Par exemple, si quelqu'un a un appel de Dieu, si tu te maries, sois clair avec ta femme ou même avec ton mari. Parfois, c'est la femme qui a un appel de Dieu. Ça arrive assez rarement, seul. En général, Dieu nous appelle tous les deux. Mais si tu sais que tu vas servir le Seigneur, préviens à l'avance ton épouse en disant, tu sais, on va servir le Seigneur. Parce que si tu te maries et que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas du tout le goût pour le ministère, tu vas avoir des problèmes. Tu vas me dire, oui, mais Dieu va lui parler dans le cours. Oui, ça arrive, mais il y a des fois où ça crée beaucoup d'histoires. Évite ça. Parce que c'est toute la famille qui sert le Seigneur et c'est toute la famille qui va payer le prix. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants de serviteurs de Dieu qui ne veulent plus entendre parler de Dieu parce qu'ils ont été négligés par leur père. Maintenant, nous ne pouvons pas transformer nos enfants. Nos enfants doivent venir au Seigneur. Et ce n'est pas à nous non plus de les propulser dans le ministère. C'est à Dieu de leur parler. Mais quelqu'un doit faire attention à sa famille. Si tu veux gagner en influence et que tu négliges ta famille, ça sera une catastrophe. Parce qu'il y aura beaucoup de pression. Un serviteur de Dieu a beaucoup de pression. Plus il gagne en influence, plus nous sommes pressés par le monde spirituel. Et Satan essaye de nous dégommer. Et un des moyens par lesquels il passe parfois, c'est la famille. Ensuite, numéro 2, quand un leader suit toujours ses convictions, il percera tôt ou tard. Quand un leader suit toujours ses convictions, il percera tôt ou tard dans l'influence. C'est obligatoire. Il y a trop de leaders qui ne marchent pas selon leurs convictions, mais qui marchent selon la popularité. Et ça, c'est pas bon. Ne marche pas selon la popularité. Où que t'en sois dans ton influence, marche avec tes convictions. Continue dans tes convictions et tu perceras obligatoirement tôt ou tard. Ton influence va se multiplier. C'est obligatoire. C'est une conséquence. Mais tu dois marcher dans tes convictions jusqu'au bout. De toute façon, tu seras testé. Les gens te testeront sur tes convictions. Il y a des leaders, ils ont un grand baratin, mais au bout d'un moment, on ne veut plus les écouter. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Et quand il y a un moment où ça chauffe, ce sont les premiers à envoyer les autres à la bataille et eux sont là en train de se cacher, prêts avec un passeport et un billet d'avion à fuir si ça tourne mal. C'est minable. Le leader doit être au front. Ensuite, avoir un bon modèle, numéro 3, dans notre entourage. Avoir un bon modèle dans notre entourage. C'est-à-dire que nous, en tant que leaders, nous devons chercher des gens auquel on doit s'identifier. Parfois, Dieu va mettre un mentor à côté de nous. Parfois, malheureusement, nous n'en aurons pas. Mais on doit toujours s'identifier à quelqu'un. Il y a des modèles. Quelqu'un qui dit, moi, j'ai personne comme modèle. J'aimerais ressembler à personne en tant que leader. Ah, il a un problème sérieux, celui-là. Mais il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui vont vous dire, non, j'ai pas besoin de ça. Moi, le leadership, ça m'intéresse pas. Le leadership, non, c'est des trucs intellectuels. Non, c'est pas des trucs intellectuels, ce sont des réalités de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir des gens qui ont réussi dans les mêmes domaines dans lesquels nous sommes appelés. Et nous disons vraiment, lui, il a fait ça, vraiment. Si j'ai un jour la grâce de pouvoir le connaître et de lui parler, j'aimerais pouvoir lui parler. Et ça, nous devons chercher des modèles. Parfois, pour la famille, c'est la même chose. Nous devons, à droite, à gauche, se poser des questions. Parce que, vous savez, j'ai remarqué que la première génération de chrétiens, et quand on sert le Seigneur, c'est pas facile. Souvent, la deuxième et troisième génération, c'est-à-dire nos enfants, si on est dans le ministère, nos enfants, nos petits-enfants, etc., pour eux, c'est beaucoup plus facile. Parce que nous, on sort vraiment d'une vie de ténèbres, et d'un seul coup, on se retrouve, on se marie, on n'est peut-être même pas sauvé encore, ou on vient tout juste d'être sauvé, on a des enfants, on rentre dans le ministère, etc., mais on n'a pas de modèle derrière nous, parce que notre père, notre mère n'est pas sauvé, ou refuse le Seigneur, ou est déjà mort. Et donc, c'est bon d'avoir des modèles dans lesquels on peut s'inspirer. Ça fait du bien. Des gens qui ont réussi dans l'influence, qui se comportent bien et qui sont pour nous de bons exemples devant les yeux. Josué avait quelqu'un qui était son modèle. C'était Moïse. Peut-être pas au niveau de la famille, parce que Moïse a eu des problèmes sérieux familiaux. Si vous étudiez sa vie, Moïse a épousé une deuxième femme. D'ailleurs, il a eu des histoires avec deux serpents, entre guillemets, deux personnes qui l'ont remis en question. Et Dieu a défendu son serviteur, alors que Moïse avait tort. C'est un autre sujet. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.